nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Ce chef des relations humaines lui dit « Vous avez été recommandé par M. Franblanc, notre président. Cela fait longtemps que vous le connaissez ?» Julien lui dit « Je connais la famille depuis, disons, toujours. Je vois tous les jours son fils. » « Bien, bien, très bien. Alors, vous cherchez un emploi ?» « Oui, je cherche un emploi pour pouvoir entrer dans la vie active. » Parce que les cours, ce n'est pas la même chose. Vous désirez quoi comme place ? Julien lui dit, ce que vous me proposerez, parce que je n'ai pas de diplôme pour le moment. Vous faites quoi comme étude ?
Médecine.
Jamais fait de stage dans un établissement hospitalier ?
Non, jamais.
Bien. Vous ne travaillerez dans un bureau. Ce sera moins pénible que de s'occuper des malades.
Julien lui dit, non, je préférerais m'occuper des malades.
Bien. Alors, aide-soignant, cela vous va-t-il?
Oui, merci.
Le salaire est de...
C'est parfait.
Bien. Je vais vous préparer un dossier.
Il ouvre son ordinateur. Et lui demande.
Non.
Sève.
Prénom.
Julien.
Âge.
Adresse.
Études.
Etc.
Etc.
Puis, une fois que la chose est faite, le chef du personnel lui dit,
vous allez faire une visite médicale, par maladie grave, dépression nerveuse, cancer, sida, etc.
Julien lui dit,
non, chef du personnel lui dit, de toute façon, ils verront, parfait. Vous allez entrer, si tout va bien, dans une clinique un peu spéciale. C'est la meilleure du monde et soigne les grands de ce monde. Le prince Charles, dernièrement, s'est fait opérer des amygdales. La plupart de nos patients sont des gens du monde. Nous ne faisons pas le ramassis des rues, les SDF et compagnie. Ça, c'est pour les hôpitaux. C'est pour cela que nous demandons à notre personnel une tenue irréprochable. Rasé de près, vêtements impeccables, politesse, discrétion. Il arrive
qu'une de nos patientes est un petit faible pour un autre salarié. Nous vous demandons, c'est d'être discret. Surtout, ne dites jamais rien à personne, même pas à un journaliste, de ce que vous savez sur sa maladie ou sa vie privée. Nous n'embauchons pas n'importe qui, et c'est bien parce que vous avez été recommandé par M. Franblanc. La clinique est sous haute surveillance à cause des journalistes qui y vont. Des policiers surveillent les entrées et sorties. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah oui, certaines chambres vous seront interdites à cause des personnes qui y sont. Vous êtes toujours d'accord pour travailler avec nous ? Julien lui dit, oui, bien sûr, monsieur. Bien. Alors, venez demain à 15h pour la visite médicale. Après, nous vous dirons si vous êtes pris. Voilà. Julien se lève. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Et il sort du bureau. Il est un peu déçu, car il va avoir comme patient des gens du grand monde, des femmes avec leurs petits chiens et manteaux de fourrure. Mais, puisqu'il a dit, oui, il ne peut pas reculer. Il se présente pour la visite médicale complète. On lui fait une visite de la tête aux pieds, nue, radiographie, prise de sang, urine, yeux, réflexes, test de la mémoire, de l'intelligence, équilibre, gym, nage, course, saut, etc., etc. Après cette visite médicale, qui a été un vrai parcours de combattant et qui a duré 4 jours, il est retourné au bureau du chef des relations humaines. Tout est parfait. Vous êtes embauché. Vous commencez dans 15 jours, au début du mois. Il lui tend une carte. Voici la carte du personnel qui vous permet de vous déplacer librement. Je vais vous faire visiter l'établissement. Ils sortent du bureau. La partie service du personnel, cantine, restaurant à toute heure, salle de réunion, vestiaire, douche, chambre individuelle pour se reposer pendant le service avec télévision. Sur l'écran apparaît les ordres qu'il a exécutés en surimpression sur l'émission. Il lui montre les bureaux administratifs, la cantine, la bibliothèque, les différents bureaux de la direction, comptabilité, administratif, puis lui montre les parties publiques, c'est-à-dire le coin des malades, salle d'opération, de soins, de consultation, de gym rééducation, piscine, restaurant, bar, bureau des différents médecins et des salles de malades. Tout est clair, blanc, baies vitrées, les chambres sont meublées avec des meubles d'hôpital camouflés en meubles normaux pour ne pas gêner les gens. Puis il lui montre où il va travailler, sa chambre. Le magasinier lui donne une blouse, un pantalon, des chaussures, un t-shirt. Il est présenté aux infirmiers, infirmières, aides-soignants, médecins du service. Tous ont l'air très sympathiques. Le chef des relations humaines a prévenu qu'il était l'un des intimes de la famille Franblanc. Tout le monde lui fait bonne mine. Il repart satisfait avec ses vêtements de travail et son tableau horaire. Un jour plus tard, il commence à travailler. Il prend son travail en fin d'après-midi et termine à minuit. 4 jours par semaine. Il est satisfait, les gens sont gentils avec lui et le travail est propre. Il aide à mettre les malades au lit. Il essaye de leur faire des pansements, à tirer les chariots, la porte à boire, et voir si tout va bien dans les chambres. Chaque malade a dans sa chambre une sonnerie, ce qui permet aux soignants de voir si tout va bien. Il y a un centre d'information avec des moniteurs qui surveillent si quelque chose ne va pas. Le surveillant est prévenu par téléphone ou sur son écran de téléviseur. Chaque soignant aide médecin dans sa chambre à une télévision qui reçoit les ordres, les informations. Julien a ça aussi dans sa chambre. Il doit voir les malades dans leur chambre une fois par heure. Et une fois qu'il a fini, aider aux soins. Ensuite, il peut aller se reposer dans sa chambre ou manger. Parce qu'il y a un restaurant qui marche pour le personnel 24 heures sur 24. Julien est satisfait, le travail n'est pas trop pénible. Et le salaire est bon pour ce qu'il fait. Il le dit à Gilbert. Les jours passent. Ce travail lui permet de moins penser à sa personne, à avoir de vrais contacts avec les malades, les autres. Un jour, il est dans la chambre d'un vieillard avec un médecin et une infirmière.
Ils sont tous penchés près du vieillard qui est en train de mourir.
Car, peut-être pour se donner du courage, prend la main de Julien et la lui serre.
Julien, le contact de ses mains d'une personne qui va mourir. Il en est dégoûté. Il ne sait comment faire. Il n'ose pas se retirer. Il fait signe au médecin pour savoir ce qu'il doit faire. Le médecin lui dit, enfin lui fait signe plutôt, qu'il doit rester ainsi. Julien a peur de sentir la mort, de toucher la mort. La main est toujours maintenue dans la main du vieillard, main maigre et ridée. Il entend aussi le râle de l'homme, son odeur, une odeur amère de vieux. Tout à coup, il sent la main se raidir. Serré fortement et desserré tout doucement. Il entend le râle de l'homme, sa poitrine qui se soulève de plus en plus vite. Et tout d'un coup, il a lâché la main de Julien, qui est en sueur. Le médecin lui tape l'épaule et lui dit « Vous avez aidé un homme à mourir, c'est bien. » Julien a chaud. Désormais, il n'a plus peur des agonisants.
Arrive à la clinique une femme du monde. Elle est grande, mince, habillée d'un tailleur beige. Elle doit avoir dans les 60 ans, très élégante. Elle est venue avec Mal, Bali, Vanity. On lui donne une belle chambre avec un salon.
Julien demande, qui est cette femme?
Une infirmière, mince, dans les 25 ans, lui dit,
c'est mademoiselle Elisabeth Delors. Elle vient pour se faire une chirurgie esthétique, parce que l'on fait aussi de tout ici, même la chirurgie esthétique.
Nous sommes très forts pour ça. Sans votre patiente, attention, elle a pris une chambre de première. Le service doit aller à l'évêque. Julien lui dit, c'est comme à l'hôtel ici alors.
Oui, comme à l'hôtel. Tiens, justement. Elle vous demande, elle a appelé, elle a appuyé sur le bouton. Julien, intimidé, y va.
il se dit qu'il va jouer au domestique. Frappe à la porte.
Entrez !
Il entre. Elle est debout au milieu de ses mâles et lui dit
« Pouvez-vous m'aider à ranger mes affaires ?»
Il lui dit « Tout ça ?» Elle lui dit « Oui !» Il lui demande « Que dois-je faire ?» Elle lui dit « Ben,
vous ouvrez les mâles et vous passez les vêtements pour que je les mette dans l'armoire. Vous n'avez jamais fait ça ?»
Il lui dit « Non, jamais en médecine. » Elle lui dit
« Ah, vous êtes médecin ?»«
Non, mais je suis étudiant. » Il va ouvrir la malle. Et commence à sortir les robes, les vêtements. Il lui étend et elle va les mettre dans l'armoire. Elle lui dit,
je ne suis pas malade, mais je me fais faire une chirurgie esthétique.
Il la regarde bien et lui dit, vous êtes déjà très belle. Elle lui dit,
je suis d'une beauté, disons, assez... assez usée. Il me faudrait quelque chose de moins, de plus... printanier. Bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes si jeune, mais vous verrez le jour où ça vous arrivera. Et si ce jour-là, vous devez séduire quelqu'un,
et il continue à ranger les affaires.
Puis elle lui dit, je vais faire l'intégrale. Vous savez, on vous enlève toute la peau.
Il lui dit, est-ce cette personne qui vous a permis que vous fassiez ça? Parce que si elle vous aimait vraiment, il vous prendrait tel que vous êtes. Elle va s'asseoir sur le rebord du lit. Et lui dit,
oui, vous avez sûrement raison. Moi, je l'aime et lui ne peut m'aimer comme je suis. Je suis tombée amoureuse d'un jeune homme comme vous. Et pour lui, je ne suis qu'une vieille femme. Il ne me voit pas. Et s'il me voit, il me dénigre. Bien sûr, je devrais me faire une raison et me dire que mon temps est passé. Mais c'est difficile, parce que l'esprit ne vieillit pas de la même vitesse que le corps, et qu'il a les mêmes goûts et besoins. C'est faux de penser que les goûts changent en vieillissant. Non, ils restent les mêmes, mais on est obligé, c'est de les cacher. La beauté se trouve dans la jeunesse et pas ailleurs. Et moi, j'ai besoin de beauté. Lorsque je l'ai vu, je suis tombée amoureuse tout de suite de lui. Mais comment faire avec un corps comme le mien? Oui, je sais, il est pas mal pour mon âge, mais il ne fait pas 20 ans. Hélas, j'en souffre de jour en jour. Je voulais mourir parce que je voyais dans son regard une réticence vis-à-vis de moi et je sentais qu'il me voyait comme une vieille personne sans intérêt. C'est le fils d'une de mes amies. J'allais la voir souvent. pour lui, je n'étais qu'une amie de sa mère. Il venait voulait tout juste me dire bonjour. Mon ami a dû trouver bizarre que j'allais la voir si souvent. Lorsque j'allais la voir, je sais à peine parler de son fils, de peur de dévoiler mon secret. Nous prenions le thé au salon, je le voyais à travers la baie vitrée. Je le voyais au jardin se promener seul ou rire avec des jeunes filles de son âge, jouer au cricket ou autre. Je me disais que si j'étais plus jeune, je pourrais aller jouer avec eux. Une ou deux fois, nous sommes allés nous promener dans le jardin avec mon ami. Je le rencontrais seul ou avec des jeunes gens de son âge. Tions une conversion avec lui. Puis d'un coup, la mère me dit « Laissons ces jeunes gens entre eux. » J'avais l'impression c'est que nous étions dans deux mondes différents et que nous ne pouvions pas, que le monde de la jeunesse ne nous acceptait pas. Cela me fit mal au corps. Des fois, je me demandais quelle était la jeune fille qui était près de lui, qui était sa préférée. Je le demandais à sa mère, elle me dit « Il est encore très jeune, vous savez, il s'amuse pour le moment. » Ce jeune homme que j'aimais était qu'un enfant. Je ne me rendais pas rendu compte. Il est vrai que nous, les filles, devenions adultes plus tôt. J'étais désespéré. Un jour, en discutant, elle me dit qu'elle avait de la chance parce qu'une de ses amies a eu une grosse affaire à cause de son fils, un gamin de 15 ans, qui en faisait 10 ans, 17 tout de même, avait séduit la femme d'un commandant de l'armée, une femme de 35 ans, et qu'ils avaient fugué ensemble. Bien entendu, on les avait retrouvés dans un hôtel à 30 km de Paris. Il paraît qu'ils recoulaient comme des tourtereaux. Le mari de la femme était furieux et prêt à étrangler le jeune homme. Le père du garçon lui a fait entendre raison, mais de justesse. Mon ami était surtout offusqué qu'un jeune de 15 ans aille avec une femme plus vieille que lui, qui aurait pu être sa mère. Puis elle me dit, « Remarquez, je le comprends. Elle paraît beaucoup plus jeune que son âge. » Cette phrase a été un déclic pour moi. Je me suis dit que si je paraissais plus jeune que mon âge, que peut-être j'aurais de la chance. J'ai eu une lueur d'espoir qui, à force d'y penser, est devenue de plus en plus grande. Or, je me suis mise à regarder les jeunes filles en ville. Et la chose qui m'a sauté aux yeux en premier, c'est qu'elles n'étaient pas habillées comme nous. Nous nous faisons mémère avec ces tenues, disons, belles, genre Chanel, mais mémère. Or, je me suis dit, pour pouvoir être plus jeune, il suffirait c'est d'avoir une tenue comme elle. C'est simple, on va dans un magasin et on choisit.
Oui, peut-être. Mais d'abord, les magasins de vêtements de jeunes ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et il n'y entre que des jeunes filles. Puis ces magasins-là, il n'y a que des filles comme vendeuses, avec une ambiance, une musique jeune, etc., etc. La première fois que je suis entré dans une de ces boutiques jeunes, parce que j'y avais vu une robe assez bien, genre n'importe quoi, comme les jeunes aiment, donc je suis rentré et je me suis trouvé dans une ambiance boîte avec de la musique tam-tam, des écrans de télé pendus en l'air qui passaient des clips en images sulfureuses, scintillantes, rapides comme un éclair. Une fille rousse en jean et t-shirt rouge, maquillée comme une pute. Elle mâchouillait un chewing-gum. Elle fait de grands yeux en me voyant et me demande « Vous désirez ?» Je lui dis « J'aimerais acheter cette robe rouge qui est dans la vitrine. » Elle me dit « Quelle taille ?» Je lui dis « La mienne, je ne sais pas. » Elle me regarde et me dit « Votre fille est si ample que ça ?» Elle a quel âge? Je ne lui réponds pas. Elle me dit, bien, je vais prendre la plus grande. On fait un paquet cadeau? Je lui dis, oui. Je venais de comprendre que j'étais entré dans le monde jeune et que j'étais indésirable. Que les jeunes ne nous veulent pas, ils nous dédaignent et ont même de la haine contre nous, nous les vieux. Pourtant, ils ne se rendent pas compte qu'eux aussi vont vieillir. Je suis reparti démoralisé avec cette robe en chiffon ridicule. Je me suis dit que le monde de la jeunesse m'était fermé à jamais. Et la personne que j'aimais était de l'autre monde. C'était pour moi insupportable. Et puis je me suis dit, puisque certaines femmes arrivaient à séduire des jeunes gens, pourquoi pas moi? Mais comment paraître jeune? Comment les séduire? J'étais bien puni d'aimer une personne beaucoup plus jeune que moi. Est-ce que c'était de ma faute, à moi? J'avais bien le droit de demander un dernier bonheur à la vie. Pourquoi est-ce que les personnes adultes, bien adultes, n'auraient-elles pas le droit d'avoir, de demander du bonheur? Pourquoi est-ce qu'à un certain âge, on nous rejette de tout, de part, même de certaines associations du monde de la radio, de la télévision, du cinéma? Pourquoi est-ce qu'une personne n'aurait-elle pas le droit à un certain âge? Ne pourrait-elle pas s'exprimer, faire de la culture, même parmi les associations d'expression de gauche, il y a ce rejet de vieux. Et on devient vieux, c'est-à-dire rejeté de tous. J'étais en fureur contre cette société qui rejetait les personnes à partir d'un certain âge et donnait tout aux jeunes. Maison de la culture pour les jeunes, travail pour les jeunes, radio jeune, film jeune. Le reste de la population est rejeté, oublié, n'a plus le droit de citer. À partir de 40 ans, difficile de trouver du travail. Et pourtant, eux, les jeunes, ne sont pas stressés de travailler. Alors, en traversant la ville, où je voyais toute cette jeunesse feignante, inculte, grossière, j'en avais de la haine, mais en même temps de l'amertume, car je n'étais plus jeune,
et je ne le saurais plus. Et surtout, mon amour était avec eux. Bien sûr, on peut les détester pour leur arrogance, leur sans-gêne, mais on ne peut que les aimer pour leur beauté. Que devrais-je faire? J'allais toujours prendre le thé chez mon ami. Pendant que nous prenions le thé, je l'entendais souvent rire, discuter de choses et d'autres. Rire comme des enfants. Un jour, en passant dans le couloir, avec sa mère, je l'ai vu. Il était en train d'enlever son t-shirt blanc, comme ça, simplement. Et en me montrant une poitrine d'enfant, j'en eus le souffle coupé. Il ne faisait même pas attention à moi. Je ne l'existais pas. Sa mère aussi trouvait ça normal qu'il se déshabillât devant moi. Bien sûr, j'étais une vieille femme, comme elle. Et lui, pour elle, c'était un enfant. Même s'il avait les attributs d'un jeune homme. Les mères ne voient jamais grandir leurs enfants. J'ai même connu une femme qui a lavé son fils comme un enfant jusqu'à l'âge de 17 ans. Un homme ne s'est pas refusé ou l'a rejeté. Mais un jour, il a eu le courage de s'enfermer dans la salle de bain. À la longue, elle a comprise qu'elle devait le laisser seul, tranquille. Elle faisait ça innocemment, inconsciemment, sans s'en rendre compte. Son mari ne devait pas être content du tout. Mais que faire contre une femme qui croit jouer son rôle de mère à fond, être dans son droit? Et puis, elle avait aussi la maladie de la propreté et avait peur qu'il ne se lave pas assez bien et ne nettoie pas la salle de bain comme il faut et ne mouille trop. De vouloir être une bonne mère, une bonne maîtresse de maison, l'avait rendue inconsciente. Elle était devenue en dehors de la réalité. Et moi alors? J'étais désespéré. Je ne voulais pas que ce soit dit que c'était fini pour moi, que le temps était passé. Je me disais que je n'étais pas comme les femmes de mon âge, que je ne les aimais plus. Je voulais être entouré de jeunesse. Alors je me suis dit qu'il ne fallait pas baisser les bras. J'ai lu des articles dans des revues qui disaient que pour garder la ligne, la jeunesse, il fallait faire du sport, des soins de beauté. Je me suis dit, pourquoi pas? Alors, je suis entré dans un centre pour faire du sport, nager et autres. J'ai essayé à faire du vélo en chambre, à nager, à courir, à me faire masser.
Cabine, madame?
Ça m'a fait maigrir. Et en maigrissant, ça atténuait mes traits, me rendait peut-être le corps plus mince, mais le visage plus dur et vieux. Et plus je maigrissais, plus ma peau paraissait vieille. Mes rides apparaissaient. Après le sport, je me prenais du produit de beauté, anti-rides, vieillissement, sèchement de la peau, etc. Mais ça ne servait à rien. le sport, au bout d'un moment, me fatiguait beaucoup. J'avais plus la résistance d'une jeune femme. Je souhaitais abandonner. Et cette sueur avait un goût amer. Le club de sport, de remise en forme, comme beaucoup de ce genre de clubs, très cher, avait surtout une clientèle de femmes d'un certain âge, comme moi. Ce qui fait que je ne voyais que des vieilles qui suaient en montrant leur corps ridé et leur visage vieillissant sous des tonnes de produits de beauté. Elles avaient beau jouer les jeunes, ça ne marchait pas. Elles avaient des crampes, des douleurs, se fatiguaient vite. Et lorsqu'elles parlaient, elles avaient beau faire, elles parlaient de leur petit-fils, de leur mari ou leur amant. On sentait qu'elles vivaient plus que par procuration. Parce qu'elles parlaient plus de leur petit-fils que de leur mari ou de leur amant, des amants qu'elles avaient eus. Mais cette ambiance m'a vite fatigué. J'aurais aimé y voir des gens de tout âge dans ces lieux. À l'époque, les catégories d'âge ne se mélangent plus. Donc j'étais au milieu de vieilles comme moi, qui avaient les mêmes problèmes que moi. J'en avais assez, surtout que ça ne me donnait pas ma jeunesse. Ça me faisait maigrir, mais montrait encore plus mon âge en montrant mes rides, en me durcissant les traits du visage. J'avais maigri, mais vieilli, et je ne paraissais pas jeune. J'aurais donné n'importe quoi pour être jeune et belle, pour pouvoir séduire ce jouvenceau. Vous me direz qu'un jouvenceau peut être niais, mais moi, son intelligence ne m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était son âge, son corps, ce qu'il représentait. J'aimais une image, rien qu'une image, et c'est pour cela qu'il fallait que je ressemble à une image moi aussi. Mais une belle image, c'est plus difficile et presque impossible de vouloir d'être une belle image que de paraître être intelligente. Paraître intelligente, quelquefois il ne faut rien faire et donner l'illusion de réfléchir, même si le cerveau est vide. Personne ne voit dans le cerveau s'il est plein ou non. Mais pour le corps, le visage, on ne peut tromper personne. Si on est laid, vieille, on ne peut pas faire croire que l'on est belle et jeune. Il n'y a que dans les romans où l'on peut faire croire que l'on réussit à faire oublier sa laideur. Dans la réalité, le physique visuel ne peut se transformer grâce seulement aux belles phrases. On peut tomber amoureuse d'une personne qui est laide à cause de son esprit d'intelligence, mais on ne peut pas oublier malgré tout qu'elle est laide, même si sa laideur passe en second. Voilà où j'en étais. Ce qui me démoralisait le plus, c'est que je le voyais très souvent, avec sa beauté arrogante. Et moi, j'aurais donné mon âme au diable comme Faust. Je savais que j'étais folle, que je vais oublier tout ça et oublier le jeune homme. Oui, fallait que j'arrête tout ça. Mais moi, qui critiquais avant les femmes qui s'offraient des gigolos plus jeunes qu'elles, je faisais en quelque sorte comme elles. Bien sûr, je ne payais pas le jeune homme, mais ma folie était la même. Donc je désespérais. Et puis un jour, j'ai lu dans une revue féminine qu'on pouvait se faire faire une chirurgie esthétique complète de la tête aux pieds. Et qu'on en était sûr de redevenir jeune. Et alors je me suis renseigné. J'ai appris que c'était chez vous que ça se passait. Et comment ça se passait? Voilà. Je tente ma dernière chance de rajeunissement.
Julien lui dit, je ne sais pas ce que vous allez devenir, mais pour moi vous êtes très belle. Elle lui dit,
merci.
On a frappé à la porte de la chambre. Elle dit,
entrez.
Entre un homme, grand, mince, cheveux blancs, visage doux, très élégant. Il porte une blouse blanche, c'est son costume marine. Il dit,
bonjour madame. Je suis le docteur Jean-Marie Gravier. C'est moi qui vais m'occuper de vous.
Il s'approche d'elle.
Bonjour, docteur.
Le médecin lui dit.
J'espère que cette chambre vous plaît et que vous allez vous mettre à l'aise. Surtout, reposez-vous aujourd'hui. Parce que demain, il y aura les examens, prise de sang, visite médicale complète. Alors, détendez-vous. Et repos complet. Ne vous faites pas de soucis. Tout ira très bien.
Et il sort de la chambre.
Une fois que le médecin est parti, il continue de ranger les affaires tout en bavardant un peu.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.